Vous écoutez
RMC.
RMC. 18h-20h.
Rotten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Rotten.
17h59 sur RMC. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten Régal. Comme tous les vendredis. Allez, on est sur la fin de l'année. Hein, avec mon équipe, là, on finit. On va essayer de bien finir. Avec Jean-Louis Tour, bien sûr. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme.
Ça va ?
Salut tout le monde. Ça va très bien.
T'es un peu fatigué, là, de la fin de l'année, là ?
Ouais, j'étais un peu malade. J'ai une petite défaillance. J'ai une quinte de tout cette semaine. Heureusement, t'étais là pour me sauver.
Ouais, je sais pas si je t'ai sauvé. En tout cas, la semaine dernière, tu m'as pas sauvé. Hein, donc, parce que j'ai eu la même chose.
Si, je t'ai sauvé.
Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec nous, on l'entend. Salut Jean-Mi.
Bonsoir. Ceux qui toussent se sont vieux, tu sais. Quand tu prends de l'âge, tu commences à tousser, c'est normal.
Là,
hein.
C'est terrible.
C'est vrai. Jean-Louis est né vieux, je trouve. C'est vrai qu'on a vu une photo de lui à 18 ans, je te jure, c'est le même qu'aujourd'hui. C'est dingue.
C'est vrai.
Alors après, si tu stacks comme ça, tu vieillis pas.
Et heureusement qu'il a des cheveux.
Arrivé à 60 ans, tu feras ton âge.
Oui, c'est ça, si tu veux. Non, mais moi, si j'ai cet âge-là encore pendant 10 ans, je suis très content.
Ouais.
Ça fait 10 ans que je l'ai. Donc voilà.
C'est comme Jean-Michel.
Il fait déjà 60 ans.
Jean-Michel, ça fait 30 ans qu'il a le même âge. C'est remarquable.
Ouais, il avait déjà la coupe de Star Trek. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il l'a toujours. Elle a pas bougé, celle-là.
Quelque chose à dire, Jean-Michel ?
Non, non, Star Trek, c'est pas celui qui a les oreilles décollées, là.
Si, si, c'est ça, Spock, Captain Spock.
Ah non, c'est Jacques Santini. Excuse-moi, j'ai confondu avec Jaco.
On embrasse Jacques Santini. Il devait pas venir faire un Rotten Régal, Jacques Santini.
C'est la dernière.
Il y a l'Euro. Non, on sera quand même là la semaine prochaine, même pour le début de l'Euro, mais on sera en Rotten Régal spécial Euro à quelques minutes du premier match.
France-Angleterre.
On invitera
les France-Angleterre de 2004. Voilà.
Bah oui, c'est une bonne idée, ça.
Bah ouais. Puis il avait fait un bel Euro. C'est vrai que ça s'était bien passé.
Oui.
Il avait signé à Tottenham avant, il nous l'avait annoncé. Et là, on a senti une rage de vaincre dans l'équipe.
Incroyable, cette Euro
2004. À la fédération, il lui avait fait un petit peu à l'envers aussi.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Alors, tu fais pas de soucis.
Que Jacques Santini vienne nous raconter tout ça.
Mais voilà,
en détail.
Bien sûr qu'on l'accueille. Je m'entends très bien avec Jacques.
Bien sûr.
Et puis, bien sûr.
Et on lui laissera le temps de répondre.
Bien. Ouais, vaut mieux faire sur une émission de 3 heures en fait.
Allez, c'est parti pour Rotten Régal en mode Euro. Donc on est à une semaine tout pile du début de la compétition, à 11 jours du premier match des Bleus. Captain veut revenir sur l'une de tes prises de position de la semaine, Jérôme. Pour toi, le leader des Bleus, c'est Antoine Griezmann, et ça le reste même après ce premier match de préparation. 32-16, appelez-nous pour participer au débat. On écoutera aussi un entretien en longueur avec Olivier Giroud, et puis on n'oublie pas la Ligue 1 qui a été le pilier tout au long de la saison de Rotten Régal. Donc à 19h, multiplex spécial Mercato.
Ah oui.
Les infos à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Lyon. Et le nouvel entraîneur de ton club formateur, Jérôme, Stéphane Moulin, a été présenté aujourd'hui. Donc on en parlera également dans le multiplex à 19h. Mais tout de suite.
Et Duprat, il va où, Duprat ?
Ah bah ça, je ne sais pas. Il est sur RMC.
Je pensais qu'on essayait de le transférer aussi. Non ?
Ah, j'ai pas d'infos.
Ah.
Je sais pas ce qui se passe, mais bon.
Ouais, je sais pas.
T'as peut-être plus d'infos, je ne sais pas.
Je crois qu'ils veulent le mettre dans l'after. Il passerait des bons moments hein, dans l'after. Avec Daniel.
Et toi
Non, moi non. Moi j'ai
ça
plus
va
le temps.
Duprat.
Avec Pascal Duprat.
Oui. Non.
Bah, je sais pas si ça va. Moi je dis des vérités. Hein, donc ce que je vois. Donc après, des fois,
côté,
tu les graffines un peu.
Et du sien, on sait pas.
Ce qu'il a fait dans mon club formateur, c'est pas génial. Quand même.
Non, c'est pas fou à Comte. On y reviendra sur Comte tout à l'heure. T'as vu que Patrice Garande aussi à Toulouse, c'est fini.
Ouais, par contre, là, j'étais déçu. Tu vois, je l'ai défendu.
Ah oui.
Je l'ai défendu parce que je trouve que c'est dégueulasse de l'avoir viré comme ça. Il a eu une année, certes, à la fin. Non, mais un peu compliquée à la fin. Mais,
son président est un génie, hein, donc il a senti
la Molina. Ça y est, Greg, c'est compte.
Chacun avec ses comptes à chaque fois. Bon, allez, on y va.
J'ai dit, je fais des compliments sur le président de
parce que ça t'a marqué son passage à Saint-Etienne.
Allez, on y va. L'équipe de France.
Et pas qu'à moi.
Est-ce qu'il faut avoir peur du gâchis, messieurs, pour les Bleus?
Nous avons mis 4 produits rares dans notre panier et on commence avec le caviar français. Rencontre avec un producteur installé en Sologne.
La qualité, elle est là. Évidemment, je le sais, vous le savez.
Et à l'ouverture du score pour Kylian Mbappé.
Les premiers caviars qu'on a eus, alors qu'on avait peu d'expérience, étaient déjà des caviars qui avaient de bonne qualité.
Griezmann la frappe à rouler. Oh, à qui le mot ? Ce but d'Antoine Griezmann. Et le but de Ousmane Dembélé.
Depuis que le chef y a goûté, il ne peut plus s'en passer, une saveur unique, réservée à quelques privilégiés.
We are the people we've been waiting for.
Et oui, il y a du caviar en équipe de France. Alors ça a été le débat pendant longtemps autour des Bleus. Un débat que Didier Deschamps est presque parvenu à faire passer avec le temps. Le nombre de joueurs offensifs alignés. Depuis l'Euro 2016, on sait que sur un gros match, Deschamps privilégie l'équilibre en ne mettant que trois attaquants. Mais alors, vu le potentiel qu'on a désormais en équipe de France, et on l'a vu face au Pays de Galles, est-ce que ce serait du gâchis de n'aligner que trois attaquants, de n'aligner que, entre guillemets, Mbappé, Benzema, Griezmann. 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme.
Écoute, j'ai envie de te dire oui. Avec le potentiel qu'il a aujourd'hui, des joueurs qui sont sur le toit de l'Europe dans leur club, quasiment, hein, tu regardes, hein, ils ont fini. Alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas être champion d'Europe, mais bon, quand on parle de Karim Benzema, on parle de Kylian Mbappé, on parle d'Antoine Griezmann, on parle de Kingsley Coman, d'un point de vue offensif. Je pense que il y a vraiment moyen pour se faire plaisir. Et je trouve que Didier Deschamps doit se servir de ce qu'il a voulu mettre en place pour continuer à faire des changements, jouer d'une certaine façon. On a gagné la Coupe du Monde, très bien. Lui-même l'a dit, hein, c'est avec toi, Jean-Louis, avec Mohamed, lundi, on l'avait fait en interview, quand il dit je sais que on gagnera pas l'Euro comme on a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est qu'il y a une réflexion. Et si c'est le cas, en effet, peut-être faire évoluer l'équipe. Alors je sais pas, moi je partais sur trois défenseurs et une animation différente, mais ça peut être un quatre défenseurs et quatre milieux de terrain avec des joueurs sur les côtés qui sont plus offensifs que d'avoir trois milieux de terrain qui te servent pas forcément à grand chose. C'est vrai que j'ai tendance à tomber un peu sur Adrien Rabiot et je l'ai dit après le match, mais parce que je trouve que sa position et ce qu'il apporte à cette équipe est quasiment inutile. Alors c'est dur de dire ça, je dis pas que c'est un mauvais joueur, bien sûr que non, sinon il s'imposerait pas à la Juve, même si c'est pas la meilleure Juve, il aurait pas joué autant d'années au Paris Saint-Germain et être un joueur international. Mais je trouve que quand t'as les moyens et t'as dans les mains, il l'a dit Didier Deschamps, des joueurs fantastiques, et ben fais en sorte que ton équipe devienne spectaculaire. Et en plus, il risque pas grand chose parce que il le dit lui-même aussi. Le collectif est très important. Mais le collectif, il est important. Et je pense qu'il y a rien qui peut perturber ce collectif. Et on le voit à chaque match. C'est qu'il a transmis, il a réussi à mettre cette rage de vaincre, cette haine de la défaite à tous les joueurs. Et aujourd'hui, c'est quand même un gage de résultat, gage de réussite d'avoir cet état d'esprit-là. À partir de là, si t'as ça, même les joueurs offensifs, ils l'auront, ils vont se battre, ils vont se transcender, faire des choses qui font pas forcément en club, c'est-à-dire les replis, essayer de récupérer le ballon plus vite et puis surtout d'avoir un peu plus de maîtrise technique. Et ça, dans ces cas-là, bah, tu retires un milieu de terrain, tu retires Adrien Rabiot, tu restes à jouer avec Pogba et Kanté. Ça peut être Tolisso aussi, hein. Attention, il y a des bons milieux qui peuvent jouer aussi. Et là, ça te libère une place d'un point de vue offensif. Et là, oui, ça peut avoir un peu, ça peut avoir de la gueule. Et je pense que ça jouera pas sur les résultats. Et surtout, il faut.
Tu mets pas en péril l'équilibre, en fait.
Non, parce que l'équipe de France, elle fait peur. Aujourd'hui, elle fait peur à toutes les autres équipes. Tout le monde le dit. Ils sont unanimes pour dire que l'équipe de France, elle est fantastique. Déjà, rien que par rapport à son titre de champion du monde, c'est la meilleure équipe du monde pour la plupart des équipes qu'on va jouer. Donc, il y a un complexe d'infériorité. Alors, ils peuvent se transcender en préparant les matchs contre l'équipe de France qui est fantastique et en disant ça, sauf que l'équipe de France doit jouer là-dessus aussi. Aujourd'hui,
l'équipe de France a tout à perdre et les autres ont tout à gagner. Donc, je ne sais pas s'ils feront vraiment de complexe d'infériorité, les autres.
Tout à perdre, je ne sais pas. Ouais.
Elle a tout à perdre, elle est championne du monde. Et elle est archi favorite. Il est évident que c'est elle qui a tout à perdre.
Mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais Jean-Michel, je te pose la question. Quand tu es dans cette situation-là, tu te sens fort. C'est logique. L'équipe de France gagne la plupart des matchs. Et ben, dans ces cas-là, mets tes joueurs qui vont poser encore plus de problèmes à l'adversaire. Et dans une équipe, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? C'est le jeu offensif de l'équipe. C'est-à-dire, si t'as les meilleurs joueurs sur le terrain.
Mais dans les grandes compétitions, Jérôme, on n'a jamais vu, ça n'a jamais été l'équipe qui offensivement a été la plus brillante qui a gagné. Bravo. C'est souvent, et je le regrette, c'est souvent l'équipe qui a été la plus solide défensivement. Tu le sais aussi bien que moi, Jérôme, quand on faisait, à ton, oui mais toi c'est longtemps, peut-être que tu t'en souviens pas, quand on faisait des petits 6-6 en travers du terrain.
Et tu joues avec les défenseurs et les attaquants, c'est toujours les défenseurs qui gagnent.
Voilà. Donc, déjà, toujours les défenseurs qui gagnent. C'est la preuve, c'est bien la preuve quand même que la défense est à respecter dans l'équilibre d'une équipe. D'autre part, sur cette équipe de France, là, quand elle joue en 4-3-1-2 comme elle a joué, dans les trois du milieu, dans les quatre, dans les trois où se trouvaient Tolisso, Pogba et Rabiot, si elle joue comme ça, Jérôme, j'aimerais avoir dans ces trois-là des hommes qui se projettent dans les couloirs et qui soient capables d'aller titiller les défenseurs adverses. Je n'ai pas là-dedans. Si tu joues en 4-3-3 avec une pointe haute et que cette pointe haute soit Griezmann, tu vois, je te ménage pour pour tout à l'heure. Mais on y reviendra. Et que sur les côtés, tu fais une attaque avec. Je te prends les trois du milieu, Pogba, Kanté et Griezmann. Et les trois de devant, Benzema en pointe, et sur les côtés,
Mbappé, Coman ou Dembélé.
Et Mbappé. T'as pas une bonne équipe,
hein? C'est ce que dit Jérôme, oui.
Ah oui, c'est ce que je te dis.
Ouais, vous êtes d'accord, oui.
Oui, mais sauf
que... Est-ce que là, dans cette configuration-là, ça te met en péril d'un point de vue de l'équilibre de l'équipe? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr.
Ces latéraux-là, les latéraux qui nous ont rendus champions du monde, qui ne sont pas des latéraux qui montent beaucoup.
Oui, et qui ne sont pas
des latéraux, en plus.
Voilà, c'est des défenseurs de départ à la base.
Et on l'a vu, pour récupérer le ballon, dire Coman, en club, il est bien passé pour le savoir, il bosse beaucoup, donc il fait des efforts. Griezmann, c'est moins qu'on puisse dire, on lui reproche même par moment d'être trop bas. Donc il y aura pas. Mbappé va peut-être s'oublier, côté gauche, ça peut être le problème. C'est pour ça que l'animation, tu peux la faire différemment. Ouais. Et moi,
défenseur qui a Mbappé face à lui, il prend pas beaucoup de liberté quand même.
Oui, il va pas beaucoup monter, sur le.
Parce qu'autrement, il lui faut une épuisette pour l'attraper.
Ouais, mais ça dépend. Donc, ça dépend du profil. Regarde, si tu joues l'Italie, c'est Florenzi face à toi. Tu crois que Florenzi va se dire c'est Mbappé, donc je vais faire que défendre? Non, Florenzi, ses caractéristiques, c'est aussi de contrer l'adversaire.
Tant mieux.
Ah oui,
mais s'il monte, il ne reviendra jamais, Florenzi, ça on le sait.
Ouais, c'est vrai.
Il fait l'aller, mais pas le retour, c'est sûr. Hein.
T'as raison, mais Didier Deschamps, comme il voit les choses, et je le sais parce que je l'ai eu, il n'a pas évolué de ce côté-là, c'est quand il place une équipe, en effet, il te place avant tout une structure défensive en place en disant là. Défensivement, on va poser des problèmes à l'adversaire quand ils vont avoir le ballon. Sauf que moi, je pense, pour aller dans ce qu'il vous a expliqué lundi, c'est que si tu veux jouer différemment, maintenant, au lieu de réfléchir en disant défensivement, je vais poser des problèmes à l'équipe, avec le ballon, je vais poser des problèmes à l'équipe adverse. Et si il passe le cap, et franchement, je te dis ça parce que nous, ça remonte. C'est sûr que là, je te parle de quelque chose. Il y a quasiment 20 ans, un peu moins de 20 ans. Mais au départ, c'est la stratégie qu'il mettait en place. En plus, c'est un jeune entraîneur. Donc, d'autant plus, il était focalisé sur la structure de l'équipe, l'aspect défensif. Mais au fur et à mesure, quand il a vu que ça roulait tout seul, là, il a lâché.
Jérôme, à Monaco, il n'avait pas les mêmes joueurs qu'en équipe de France.
Non, mais je te parle dans la prise de risque offensive. Alors,
Jérôme, moi, je viens de suivre sur le changement de Deschamps et tout, mais dans ce cas, qu'il aille au bout des choses. Contre le Pays de Galles, ça, il aurait pu mettre 4 joueurs offensifs, il aurait pu se lâcher.
Ouais,
s'il ne le fait pas là, je ne suis pas sûr qu'il le fasse.
Moi, c'est vrai, tu as raison. Bon. Après, peut-être qu'il voulait donner du temps de jeu à certains, qui en auront moins. Un mec comme Tolisso en avait besoin. Peut-être Kanté n'a pas pu jouer. Il y a des joueurs, les joueurs de Chelsea n'ont pas été alignés. Peut-être qu'il y avait des interrogations aussi là-dessus. Là, la réponse qu'on va avoir, c'est contre la Bulgarie. La Bulgarie, c'est le dernier test. C'est sûr que s'il nous ressort ces trois milieux de terrain avec Rabiot axe gauche, t'es sûr qu'à l'Euro, il partira comme ça.
Il y a peut-être un autre aspect, ça vient peut-être de l'état d'esprit. Écoutez Didier Deschamps, aujourd'hui, qui donc a donné une interview à BFM TV, qui a combattu plusieurs idées, notamment sur... Alors, il a ni la France est favorite, mais attention, puisque quand on est favori dans le sport français, c'est compliqué. Du coup, on a l'impression qu'il combat toute cette enflammade qu'il peut y avoir autour de l'équipe de France. Écoutez le sélectionneur.
Je ne peux pas calmer l'environnement extérieur qui, aujourd'hui, j'imagine, est très positif. Avoir confiance, oui. Avoir de l'ambition, être compétiteur, oui. C'est pas, surtout pas s'installer dans un dans un confort, et ils le savent, je leur ai déjà dit, je leur redirai, au-delà de la qualité individuelle, voilà, il y a la force collective qui est au-dessus de tout, et de par les adversaires qu'on aura en face de nous, la qualité ne suffira pas, même s'il y en a qui peuvent penser aujourd'hui, on n'a même pas rentré sur le terrain, on a déjà gagné les matchs, mais surtout pas. Et le sportif français, en général, il est jamais performant lorsqu'il est dans cette situation-là.
Voilà, c'est peut-être un élément pour expliquer la petite frilosité de dire, voilà, comme on a ce potentiel, on n'oublie pas quand même qu'il faut de l'équilibre, qu'il faut mettre trois milieux de terrain, voilà.
Oui, mais sauf que ça passe par l'évolution aussi, et je suis désolé, mais là où je suis un peu en contradiction avec Didier, c'est que ce groupe, il est pas récent, même s'il a évolué, mais cette équipe qui veut gagner les compétitions et qui est pas loin, on a fait finaliste de l'Euro en France, donc il y a 5 ans maintenant, il y a 3 ans, on a été champion du monde. Donc les joueurs ont montré qu'ils arrivaient à se remettre en question, et même sur les matchs de préparation, alors tout n'a pas ou de qualification là pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro, tout n'a pas été parfait. On était les premiers à dire ouais, par moment on s'endort, mais les résultats ont été là. On a très peu perdu. On a souvent gagné, on a été une machine, et ça, c'est quand même quelque chose. Ça montre l'état d'esprit. On a souvent gagné les matchs grâce à l'état d'esprit, hein, Jean-Louis.
Bien sûr.
Il faut pas. Après.
Il ne veut pas perdre ça, en fait, Deschamps.
Mais il va pas la perdre, parce que il a les armes là-dessus, c'est le meilleur, c'est un génie là-dessus. Après, lui aussi, il doit aussi comprendre que il a ces armes-là, et qu'il fasse confiance, s'il joue avec une équipe plus offensive, qu'il fasse confiance aux joueurs qui sont placés sur le terrain, qui vont prendre plus de risques offensivement, pour que ces mecs-là ne s'oublient pas défensivement. Et moi, je suis persuadé que s'il arrive à mettre ça en place, eh ben, on fera beaucoup, beaucoup de mal aux adversaires.
Très bien.
Et puis surtout que, attention, l'Euro, le premier match par exemple, s'il a des incertitudes sur le premier match, franchement, on risque pas grand-chose. Le premier match, mais j'espère qu'on fera pas. Vaut mieux bien démarrer la compétition, on est d'accord. Bon, et quand même, c'est les 3 meilleurs premiers qui passent.
Les 4 meilleurs premiers sur 6.
Oui, du moins, même le 3 en finissant 3e, on peut passer.
Les 4 meilleurs 3e, pardon.
Voilà, oui, les 4 meilleurs 3e sur 6. Ah, franchement, normalement, il faut le faire si on se fait éliminer au premier tour. Donc, tu peux prendre encore plus de risques. Et imagine, en prenant des risques, tu gagnes en Allemagne.
Il n'en prendra pas.
Ouais, je pense pas qu'il en prenne, mais bon. Bon, alors attendez. Dans un instant, entretien avec Olivier Giroud. On continue le débat également en vous donnant la parole. Au 32-16, est-ce que ce serait du gâchis de ne jouer qu'à 3 offensifs? Mais avant tout cela, Roland Garros, Eric Salio nous appelle pour un résultat important. Salut Eric.
Les Français.
Non, il n'y a pas de Français, il n'y a pas d'Eric. Il est où Eric Salio?
Enfin, il en a marre.
Mais celui-là, il est incroyable.
Il est infernal. Il est pas là. La future politique sportive de la Fédération française de tennis.
Non, mais là, on attend quand même.
Sortir des pépites.
Vu les résultats qu'on a eu du tennis français.
Il devait nous annoncer la qualification de Roud.
Bah, il y a eu des changements à la tête de la Fédé, là, avec l'arrivée de Moreton. Il a changé. Mm-hmm. Donc, vous avez lu des interviews de joueurs qui ont des anciens joueurs qui ont des rôles importants aujourd'hui, la remise en question.
Je crois, oui.
Vous avez vu les critiques? Ouais, non, mais je sais pas.
Il y a pas de politique, il y a pas de remise en question
aujourd'hui. Il a un rôle important.
Ouais.
On est d'accord. Vous l'avez entendu parler?
Non.
Bah, c'est quand même bizarre.
Ils vont
parler quand?
Bah oui. Je ne sais pas.
Au lieu d'écarter peut-être les meilleurs entraîneurs qu'on a. Tu vois, un mec comme Thierry Champion, qui est un des meilleurs entraîneurs français.
Ouais.
Bah, ils l'ont écarté, non?
Je savais pas que Roten régalait aussi sur le tennis à ce point.
Bah non, mais voilà, je comprends pas.
Eric, ils ont aussi.
Dans un instant, continue le débat sur l'équipe de France.
Il est comme toi, normalement, il est à la retraite.
Avec Olivier.
Il y a que toi qui n'es pas à la retraite.
RMC.
18h-20h.
Roten régale. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h-19, toujours dans Roten régale, bien sûr. Allez, Jean-Louis, on continue avec Jean-Louis Tour. Jean-Michel Larquet, bien sûr, toujours avec toi.
Et à 18h30, votre opposition hebdomadaire, messieurs, ce sera autour d'Antoine Griezmann. Tout à l'heure, ne ratez pas ça. Avant notre entretien RMC Sport avec Olivier Giroud, Malek est là au 32-16. On continue notre débat. Ne jouez qu'à 3 offensifs. Est-ce que ce serait un gâchis pour les Bleus? Salut Malek.
Salut Malek.
Salut, ça va les gars?
Ça va? En pleine forme. Et toi, ça va?
Ouais, ça va.
T'as hâte de démarrer l'Euro?
Ouais, hâte de démarrer l'Euro. Et Roten, je suis un canet. Ça te rappelle des souvenirs?
Ah bah oui, un petit peu, oui. Oh, voilà. Surtout pour toi, les souvenirs, non?
Ah, ils sont lointains, la Ligue 1, ouais, elle est lointaine.
Ouais, ouais.
Faut qu'on fasse une meilleure saison la prochaine. Ouais, par rapport à l'attaque des Bleus, moi je verrais bien 4-3-3, plus que 4 attaquants. J'ai peur qu'avec 4 attaquants, ils se marchent sur les pieds, avec une vraie pointe comme Benzema, et sur les côtés, des profils... Dembélé, Mbappé, Coman en priorité. Et derrière, un mec qui les alimente comme Griezmann. Je trouve que ce serait pas mal.
Et Benzema, il va sur le banc.
Non, Benzema.
Mais non, il l'a dit, il peut à la pointe, il a dit.
Ah, tu joueras en 4-3-3 avec, avec une pointe haute, du moins un Griezmann en numéro 10, c'est ça?
Exactement. Ah,
d'accord.
Ouais.
Ouais, ben ça change pas beau. En fait, après c'est le tableau noir et c'est ce que va demander Didier Deschamps. Moi vraiment, je pense tu peux avoir raison. Le seul souci, et on connaît Didier défendre sur la largeur avec Mbappé d'un côté et Coman de l'autre, il peut se poser des questions, se dire les joueurs ils vont permuter, ils vont s'oublier. Donc il y a un schéma dans ces cas-là qui est très clair, c'est que si tu joues à trois derrière, vraiment l'équilibre tu l'as beaucoup plus facilement et ça lui donne cette sécurité-là aussi sur les côtés. Donc je ne sais pas s'il va le tenter, mais ça te donnerait en effet la possibilité de mettre quatre joueurs offensifs. Parce que s'il ne fait pas ça, vraiment, et là je vous rejoins tous, hein, et Didier Deschamps contre l'Allemagne, on jouera à trois milieux de terrain, une base assez solide dans le cœur du jeu, et avec Rabiot côté gauche.
Merci Malek.
Ou alors on met un Rotten bis, on met des centres au cordeau.
Et c'est qui ça?
Mais c'est celui-là. Mais il faut le trouver encore celui-là.
Ah oui, faut le trouver.
En fait, je vais te dire.
Thomas Lemar, il peut le faire, non?
Exactement. Dire dans ce rôle d'Adrien Rabiot, moi, c'est ce que je lui reproche, c'est que ça en ronronne un peu trop, qu'il joue latéralement, qu'il met pas assez de peps, il récupère pas assez le ballon, il vient pas s'incorporer assez dans la ligne des attaquants, il donne pas assez de balles de but aux attaquants, il frappe pas assez, même si le dernier match c'est sa frappe du pied droit.
C'est une maladie pour les milieux de terrain, parce que pendant que tu parlais, et je ne prends pas les milieux de terrain qui marquait beaucoup de buts du temps de Platini, puisqu'il jouait, on va dire, 9,5. Mais même Vieira, à son époque, qui était quand même un joueur qui, défensivement, était extrêmement... Et Patrick, il a marqué beaucoup de buts. Il a marqué pas mal de buts.
Et Jean-Michel, sans aller chercher aussi loin, dire Matuidi. Et Matuidi a souvent été dernier passeur.
Vieira, il a mis 6 buts en bleu, hein, sur 107 sélections.
Ouais. Eh ben, c'est pas mal, hein. Il y en a certains qui mettront jamais 6 buts, hein.
J'ai cru qu'il en avait 25.
Je vais simplement te dire que sur les 60 premières sélections de Patrick Vieira, il est entré 20 minutes, hein.
Ah oui, d'accord. Bon, très bien.
Oh, c'est un but tous les 20 matchs, c'est bien. Voilà. Hein, c'est un bon ratio. Ouais.
Merci Malek d'être venu au 32-16.
Sur les 6 buts, je crois qu'il a mis 3 pénaltys.
À bientôt Malek.
Et 2 coups francs.
Salut Malek.
Allez, on y va. On parle du potentiel offensif des Bleus. Il y en a un qu'on oublie complètement depuis quelques jours, c'est Olivier Giroud. Alors, Nzonzi, figure-toi qu'on en parlera tout à l'heure dans le Multiplex Ligue 1. Donc, Captain, sois bien à l'écoute.
Tu me disais, il y a un blessé, il va peut-être le rappeler.
Non, je crois pas. Entretien RMC Sport donc avec Olivier Giroud qui a mené Mohamed Bouafsi dans la journée, donc celui qui pour l'instant n'a pas joué dans ses matchs de préparation, le champion d'Europe avec Chelsea, qui d'ailleurs est en pourparlers avec le Milan. Zlatan en a parlé aujourd'hui. Il s'est confié donc sur RMC, Olivier Giroud dans Rotten Régal.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il aurait dit le petit gamin de Tours, enfin le petit gamin qui a démarré à Tours et qui s'est fait recaler par un entraîneur qui aujourd'hui... on ne sait plus où il est. Qu'est-ce qu'il aurait dit, ce petit gamin, si on lui avait dit que 15 ans après, il aurait gagné la Champions League, la Ligue Europa et la Coupe du Monde?
Bien sûr que 15 ans après avoir commencé, c'est une immense fierté. Je n'aurais pas cru gagner autant de trophées et avoir autant d'émotions. Mais c'est la beauté du sport quand on se donne les moyens, quand on y croit. Et pour moi, rien n'est impossible et il faut vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Donc si je peux être un bon exemple, voilà, je transmets ce message. Donc voilà, c'est une immense fierté tout ce qui m'arrive aujourd'hui pour mes proches, ma famille, ceux qui me soutiennent.
Il y a un joueur qui a fait son retour en équipe de France, c'est Karim Benzema. Comment vous avez vécu son retour, Olivier?
Ouais, je l'ai bien vécu. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ça veut dire que... on a une arme supplémentaire offensivement, ça augmente nos chances d'être performants et j'estime que c'est bien pour le collectif. Voilà, après, encore une fois, on va être très attendu en tant que vice-champion d'Europe et champion du monde. On a quand même un certain statut à défendre, à assumer et toutes les armes sont les bienvenues, donc évidemment que Karim est bienvenu.
D'ailleurs, J'ai l'impression, dans les échanges que j'ai eu avec Didier, c'est qu'il n'a appelé personne, qu'il n'a souhaité appeler personne pour annoncer le retour. Il me l'a démenti d'ailleurs. Comment vous auriez réagi s'il vous avait appelé?
Malheureusement, il ne m'a pas appelé, donc on ne pourra jamais savoir ce que j'aurais dit. Donc voilà, non, c'est... pour être plus sérieux, non, j'ai pas eu le coach au téléphone, et qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à part approuver son choix, parce que c'est lui le boss et c'est lui qui fait l'équipe, donc il a assez d'expérience, il l'a montré dans le passé, donc voilà, j'ai rien à rajouter par rapport à ça.
Olivier, moi je le dis, hein, j'ai jamais vu un karting être aussi fort. Vous allez en discuter avec lui?
Ah non, 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 j'ai aucune rancune par rapport à ça, je l'avais déjà dit, donc aucun souci.
Merci Olivier.
Et il a tellement pas de rancune, Olivier Giroud, qu'il a ajouté, si on gagne l'euro, on fêtera ça sur un circuit, dans un karting.
Ouais, voilà. C'est un peu d'humour, c'est bien. Non, non, mais vaut mieux que ça se passe comme ça. Après, on demande pas que ça soit les deux meilleurs amis au monde, mais... il faut apprendre à vivre ensemble. Je pense qu'ils sont assez intelligents l'un et l'autre. On l'a vu, Karim est arrivé pas sur la pointe des pieds, parce que ça reste Karim Benzema, mais avec une communication parfaite. Et tous les joueurs qui ont communiqué sur le retour de Karim Benzema, ça a été aussi parfait en termes de communication. Ça a bien été géré par Didier Deschamps, tout ça.
Exactement. Eh oui. Ça là-dessus, il est bon.
Ah oui, oui.
C'est vrai.
Ah, ça là-dessus.
Ah bah, sur le management humain. Ah oui. C'est le plus
je crois que c'était un petit tac là, Didier.
Sur la langue de bois.
Bah, oui. Sur le jeu offensif, parfois on reste sur notre faim.
Et ouais, mais c'est pour sur ça qu'il a besoin de conseils, et je sais qu'il m'écoute.
Ah oui, vendredi, tu peux donc toujours poser la question et tu peux attendre très longtemps la réponse.
Dans une seconde, face au Pays de Galles, Griezmann a-t-il rappelé à tout le monde qu'il était le leader incontesté de l'attaque des Bleus? C'est le débat entre l'élève et le maître dans une seconde. 32-16 pour participer, à tout de suite.
RMC
18h-20h
Rotten Régal Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
18h31, toujours dans Rotten Régal. Allez, on commence la deuxième demi-heure.
Exactement, et la deuxième demi-heure commence par le programme du Journal Moyen avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Bonsoir messieurs. Alors une voix du foot sur RMC devient une star du rap.
Jean-Michel Larquet.
Ce que je vous dis là, c'est vrai. Là, il n'y a pas de rigolade.
Star du rap.
18h45.
Et Captain.
Une voix du foot sur RMC devient une star du rap.
Il dément pas, c'est
du, du bon rap, du rap tendance. Hein. On est dans quelque chose à la mode là.
Bravo, bravo Jean-Michel.
Révélation de cette voix du foot qui se lance dans le rap.
J'ai rappé moi. J'étais rappé, oui, mais pas rappé, non.
Dérapé, oui, quelques fois.
Oui, dérapé, oui, ça je sais, oui.
A tout à l'heure, Adrien, merci. C'est parti, le clash.
Et allez,
RMC,
maître sage, Jean-Michel Larquet.
Je me suis régalé comme.
Il n'y a pas mauvais élève, il y a mauvais maître.
Mais pourquoi tu m'as parlé parlé des États-Unis.
Mais si ces idées-là, par contre. Pardon.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Bravo, Jérôme.
Les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas?
Le maître contre l'élève.
Oh, il était fatigué, il est temps que la saison se termine.
Bon, vous m'avez dit que c'est la dernière aujourd'hui, Jean-Louis me dit non, il y en a encore une.
Bah oui, mais en spécial Euro, vous serez pas
oui,
par
oui,
l'événement,
c'est bon.
Vous inquiétez
ouais.
pas. C'était magnifique. Alors Jérôme, cette semaine, après le match des Bleus, la victoire face au Pays de Galles, tu as dit dans l'after, le vrai leader de l'équipe de France, c'est Griezmann.
Exactement.
Quand je pense que certains voulaient le mettre sur le banc...
Oh.
Oui, t'as
c'est
dit
vrai,
ça aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui se sont sentis visés.
Tu t'es senti visé?
Ah, complètement. Ah bah oui, mais... Ah bah, j'allais faire une dépression. Non, mais j'étais en pleine déprime. Je suis sous Prozac, là.
Ouais. Non, qu'est-ce que tu voulais dire sur le sujet, alors?
Non, c'est... Écoute, quand j'ai évoqué la possibilité de jouer avec... ou plutôt avec une équipe différente, un système différent... Griezmann n'avait pas fait le match contre la... Par définition, il n'avait pas fait son match contre le Pays de Galles.
Non.
Grande équipe d'ailleurs que le pays du Pays de Galles.
Voilà. C'était le soir de la liste que t'as dit ça.
Voilà. Comment ?
C'était le soir de la liste. Oui. Je reprécise la chronologie
des faits. Donc il y a bien longtemps. Et finalement, comme je ne suis pas quelqu'un qui regarde le football, et notamment le football espagnol et le football français, les autres c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais le football espagnol et le football français par le petit bout de la lorgnette, ben, j'ai vu quand même que depuis deux ans, c'est-à-dire depuis deux ans et demi, là, le titre de champion du monde, il y a eu, je le concède, après le titre de champion du monde, et j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé. Certes, on est parti en Turquie, c'était les premiers matchs, je crois, en 2019, quelque chose comme ça, où notre ami Griezmann était plutôt bon. Alors que contre la Turquie, nous n'avons gagné ni à l'aller, ni au retour. Très bien. Et puis, j'ai pris la saison 2020, là où Antoine Griezmann, que je considère comme un bon joueur, hein, la question n'est pas là. Antoine Griezmann a connu quand même d'énormes difficultés du côté du Barça. On n'y reviendra pas, des difficultés sportives et extra-sportives. Et quand il revenait à l'équipe de France, on se disait tous, ah, il revient en équipe de France et on va avoir quand même un Griezmann qui va se remettre dans le bon chemin ou dans le droit chemin. Et alors, là j'ai tapoté un petit peu, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, sur les matchs de l'équipe de France en 2020. Alors je n'ai pas pris les matchs amicaux, j'ai juste pris les matchs de cette fabuleuse compétition qui est la Coupe d'Europe des Nations, c'est ça?
Oui, c'est ça, la Ligue des Nations.
Suède-France. Et c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai pris au hasard des petits commentaires. Concernant Griezmann, match moyen avec un pénalty manqué. Encore un. France-Croatie en 2020. Note de 5 sur 10. Commentaire. Première mi-temps, très pauvre. France-Portugal.
Il marque, 2020. Hein, France-Croatie.
Oui, non, mais.
D'accord.
Mais,
tu dis les commentaires que tu veux, quoi, visiblement.
Oui.
Mais, bon. Mais il paraît que marquer des buts pour un attaquant, c'est pas important. Hier, nous avons eu ce débat avec ton acolyte.
Ah bon?
Oui, c'est pas important.
Il a dit ça.
On va pas refaire ce débat-là.
France-Portugal 2020. Non. France-Portugal 2020. Pas au rendez-vous. Griezmann a resservi une cuvée 2020. Hésitant, ralentissant le jeu, ce Griezmann fait mal à voir.
Il y a eu 0-0, oui. D'accord. OK.
Croatie-France. En panne de confiance, ce Grisou.
Il marque
encore. Il ne pèse pas sur le jeu. Oui, mais c'est pas important les attaquants.
Ah d'accord.
Il est infernal. C'est pas possible.
Et France et Suède 2020, influence dans le jeu nulle. C'est un problème quand tu t'appelles Griezmann. Donc moi je ne remets pas en cause la qualité du Griezmann, Jérôme. Je remets en cause ses performances au cours de la saison passée. De ses performances en bleu et ses performances en blanc ou granat. Donc, excusez-moi, mais est-ce que j'ai le droit, à un moment ou un autre, de considérer que le Griezmann que j'ai vu en 2020, et en espérant que ce ne soit pas celui que je vais voir en 2021, que celui que j'ai vu en 2020 dans le son club et dans l'équipe nationale m'interpelle, que ses performances m'interrogent, et qu'à ce titre-là, je me dis... S'il continue dans ce sens-là, il va falloir évoquer, il va falloir penser à autre chose. Voilà ce que je veux dire avec Griezmann. Si nous on retrouve le Griezmann, même pas de la Coupe du Monde, parce qu'on en a beaucoup fait sur la Coupe du Monde, je pense qu'il y a des joueurs qui ont été plus importants que lui. Mais à ce jour, Jérôme, je ne sais pas, mais si tu es un entraîneur, est-ce que tu préfères avoir ton équipe à choisir? Tu préfères avoir Mbappé ou Griezmann? Tu préfères avoir... Kanté ou Griezmann? Tu préfères avoir Benzema ou Griezmann? Donc, je considère que dans la hiérarchie qui était établie en 2018, Griezmann n'a plus tout à fait le même rôle qu'il avait à ce moment-là. Voilà. Et je m'interpelle et je m'interroge.
Donc, c'est plus le leader à contester de l'attaque.
Mais je ne lui souhaite que du bien. Je lui souhaite surtout de revenir à un niveau qui était le sien avant 2018.
Le niveau qu'il avait avant 2018, déjà, on ne pourra pas le juger parce que son rôle a évolué. Et c'est pour ça que je dis que ça reste le leader de cette équipe. C'est comme ça que le place Didier Deschamps, ne serait-ce que par rapport à son rôle sur le terrain, à son poste, où il joue quasiment dans un poste de numéro 10, avec beaucoup de liberté. Alors cette liberté, il a eu du mal à trouver sa place. Et là, je te rejoins Jean-Michel, il y a eu des matchs où on a été déçus de son rendement, parce qu'on attendait plus. Mais des matchs où collectivement l'équipe de France était un peu moins bonne. Tu fais référence au match de France-Portugal, par exemple le 0-0, où c'est vrai qu'on ne s'est pas éclaté, on n'a pas vu un grand Antoine Griezmann. Et peut-être que lui, le rôle qu'il a aujourd'hui de leader technique et de leader des offensives de l'équipe de France n'a pas été capable de faire passer un cap à cette équipe sur ce match-là ou sur d'autres matchs. N'empêche qu'il est souvent buteur. Toi, tu les oublies les buts, mais moi, je trouve que c'est important. Le fait d'être buteur.
Je les oublie pas.
Mais
c'était, même... c'était évidemment.
Non, mais bien sûr.
C'était évidemment une boutade.
Bien sûr.
C'était évidemment
une boutade. Même quand certains te disent son année à Barcelone n'est pas bonne, bah, moi, je suis désolé, elle n'est pas si mauvaise que ça. Déjà parce que.
Non, mais. Elle est. Je regarde tous les matchs.
Je sais, non, mais moi aussi, j'en ai regardé. Pas tous, mais j'en ai regardé pas mal.
Et il a été en grande difficulté.
Oui, pas la deuxième partie de saison.
Sauf que Jean-Michel, encore une fois, j'en reviens.
Quand tu t'appelles Griezmann et que tu fais une demi-saison, Jean-Louis, tu peux pas t'en contenter.
Tu dis toute la saison n'est pas
Jean-Michel,
bonne.
Jean-Michel, je pense très honnêtement.
Non, j'ai parlé de l'année 2020 là.
Oui, non, mais moi je pense que très honnêtement, Antoine Griezmann.
Jean-Louis, t'as pas, tu oui, m'as 2020 pas écouté. C'est bon alors, c'est d'accord.
Bon, tu m'écoutes Jean-Michel ou pas?
Oui, mais c'est Jean-Louis, il écoute personne.
Mais t'as fait un monologue de 8 minutes. Et je t'ai
il
écouté.
A pas écouté Malin qui
n'aurait dit Roland Courbis non plus.
Fini Jérôme.
Il y a Roland, et Roland il est jaloux. Il dit attends, t'as laissé parler autant Jean-Michel que
alors,
ça. Bon, non, mais pour finir. Sur Griezmann à Barcelone, on peut reconnaître quand même une chose, c'est que depuis qu'il est arrivé à Barcelone, sa meilleure période, elle est là, sur les dernières semaines, sur les six derniers mois.
D'accord.
Sur les six derniers mois, et on va le faire un résumé sur sa saison avec Barcelone, qui est une saison compliquée avec le contexte hockey, avec une équipe qui cherchait sur les premiers mois. Il a quand même eu une quinzaine de buts à Barcelone. C'est pas non plus exceptionnel, du moins catastrophique. Donc ça montre, et puis Barcelone ne gagne plus les matchs comme à une certaine époque, 4-5-0, ils sont souvent dans la difficulté. Donc ça monte. Et il a fait pas mal de passes de but aussi. Donc il a réussi à passer le cap à Barcelone. Je trouve qu'en effet, on récupère aujourd'hui et depuis 2-3 sélections, on voit qu'Antoine Griezmann est beaucoup mieux. Et là, j'ai adoré son match contre le Pays de Galles. Même si c'est que le Pays de Galles. Mais où j'ai adoré, c'est de sa position.
Oui.
On n'a pas vu un Griezmann qui vient décrocher sur la ligne des milieux de défensifs.
Mais Jérôme, mais question, Jean-Michel, toi, parce qu'il n'a pas été bon en 2020, tu veux le mettre sur le banc aujourd'hui alors qu'il est très bon.
Est-ce qu'à un moment donné, on peut se poser la question d'un éventuel d'une option B? Est-ce que ça vous dérange les neurones?
Mais moi ça me est-ce dérange parce que tu mets en mettant un plan B sans
Antoine
Griezmann.
Pas d'option B pour les gardiens, mais non, pas d'option B pour les attaquants.
Mais déjà je trouve que t'es injuste avec lui parce que il a quand même cette qualité technique, cette vision du jeu qui fait souvent la différence. Et je suis désolé, quand tu lui mets des bons joueurs de ballon et des mecs qui peuvent dévorer aussi les espaces comme Mbappé, quant à Benzema avec lui, on l'a vu, ne serait-ce que sur une heure de jeu, ils ont joué une heure à peu près parce que Griezmann est sorti en deuxième mi-temps. Bah franchement, il parle le même football, le même langage. Ils se font des remises et même Mbappé, souvent, il a ce rôle-là où peut-être aussi rassure les grands joueurs qu'il a autour de lui. Et c'est pour ça que pour moi, un plan B sans Antoine Griezmann, bah, je trouve que là, tu mettrais l'équipe de France en difficulté.
Comme si tu faisais un plan B sans Platini ou sans Zidane.
Bah oui, il a
tu
ce rôle-là.
Un peu, mais,
ouais,
si non, mais c'est leader d'attaque, tu fais pas un plan B sans ton leader d'attaque.
Ouais, et puis c'est quand même rare dans une sélection et encore plus dans le foot aujourd'hui que tu joues avec un numéro 10 comme ça. C'est vrai. De moins en moins, on a des vrais numéro 10 comme ça. Et c'est vrai qu'Antoine Griezmann a ce rôle-là aujourd'hui. Donc en plus, il met des beaux buts.
Dites-moi, écoute, à Saint-Etienne, Robert Armand, il faisait des plans B sans l'arquer. M'étonnerait.
Je sais pas, on va lui poser la question.
Ah bon?
Et quand il n'était pas content, il me virait. Hein, ça, je te l'ai
dit. C'est ça, non. Ça a dû arriver souvent, oui, bien sûr.
Bon, ça durait pas longtemps. Mais parce
ça durait pas longtemps.
Parce il se rendait compte que le vide était
énorme, bien sûr.
Il allait dans son bureau, pleurait un petit peu, il tapait sur l'épaule, il disait allez, c'est bon. Je sais que t'étais comme ça, Jean-Michel.
Vous allez savoir dans une seconde qui est cette voix du foot d'RMC présente dans un club.
Jean-Michel, non?
À tout de suite, vous allez voir.
RMC. 18h-20h. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
18h47. Toujours dans Roten Régal, bien sûr, sur RMC avec Jean-Michel Larquet, Jean-Louis Tour. Jean-Louis, après 19h, c'est le multiplex, hein, bien sûr.
Exactement.
On va rester dans l'actualité.
C'est le rendez-vous Ligue 1 de Roten Régal tout au long de la saison et donc on vous tiendra au courant avec nos correspondants en région de tout ce qui se passe sur le front du Mercato. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de la semaine dans Roten Régal sur RMC.
Il rigole déjà.
Une voix du foot sur RMC devient peut-être une star du rap, c'est une vraie info. Éric Dimeco, Jérôme Roten en mode premium quand il y a la Ligue des Champions, c'est toujours comme ça. Et puis si vous êtes sage, un petit charbonnier, je sais que vous aimez bien Lionel Charbonnier. Il est 18h.
Ah oui, il est bon.
Ça va
sur RMC, il est 18h passé de 48 minutes.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Roten Régal.
Adrien Aigouin.
On a vécu tous ensemble la finale de la Ligue des Champions, City-Chelsea sur RMC Story. Jeannot Séguier et Jérôme Rotten aux commentaires. 20h57, les équipes arrivent sur la pelouse et Jérôme Rotten est impatient. Une histoire de couture.
On a vu déjà l'atmosphère monter dans les rues, aux abords du stade et maintenant dans le stade. Donc voilà, on a hâte vraiment que les deux équipes en découdent.
Ouais, je découde, tu découdes, il découde, nous découdons.
Nous levons le coude, vous levez le coude.
Et je sais que tu t'en rends compte au moment où tu le dis, Jérôme, tu dis c'est trop tard.
Et le découdons.
C'est journal moyen, voilà, c'est fait. RMC Sport 1, alors là c'est intéressant. Éric Dimeco au commentaire avec Jérôme Sillon, parce qu'on a vu partout. C'est la mi-temps, l'arbitre siffle la mi-temps, et là il y a Éric qui est en mode machine professionnelle, analyse.
Là il y a plus de matière.
Écoutez l'analyse de la première période par Éric, c'est fluide.
1-0 le but de Kai Havertz, son premier en Ligue des Champions, et c'est une surprise à la mi-temps de cette finale.
Surprise par rapport à ce qu'on attendait avant le match, mais pas surprise.
Ce match vous est présenté par Mastercard.
Qu'est-ce qui va s'inventer? Voilà, ça, un truc comme ça, Eric, il vous en parle pendant une semaine derrière.
C'est vrai.
C'est intéressant comme analyse. Il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie. Il y avait aussi les barrages Ligue 1, Ligue 2. Le barrage Ligue 1, Ligue 2, Nantes-Toulouse. Lionel Charbonnier nous parle du gardien nantais Alban Lafont. Une histoire d'eau.
Bien. Oui, il est bien revenu, mais il a eu un vrai passage, énorme passage à vide, qui a été préjudiciable d'ailleurs aussi. Il a été à l'image de ses coéquipiers, mais j'attendais à ce qu'il. Des fois, tu attends un gardien qui leur maintienne, qui maintienne la tête de l'eau quand ses copains sont un petit peu. Un petit peu dans le dur.
Et voilà, bien sûr,
sans transition.
Dans le dur et hors de l'eau, oui.
Dans 7 jours. Dans une semaine, c'est l'Euro, donc jingle.
Avec Faye, Mbappé qui va frapper.
Tout le monde est à fond déjà, une semaine de l'Euro, on est impatients. Coach Courbis nous parle sur RMC dans TOTF, Top of the Foot, de l'animation offensive des Bleus avec un nouveau joueur.
On va mettre Griezmann côté droit, on va mettre Mbappé côté gauche, et on va mettre Benzema numéro 9. Et mécanisme donc de cette organisation, c'est jouer sur Mbemba,
le meilleur joueur du monde. C'est contre. Tu associes Mbappé et Benzema, c'est le meilleur joueur du monde.
Mbemba, voilà. C'est pas mal.
Avant l'Euro.
T'as coupé très vite quand même.
J'ai coupé très vite, bien entendu.
Il s'est pas rattrapé en plus.
Avant l'Euro, sur RMC, on a reçu Nicolas Anelka, l'Euro 2000. Manu Petit est présent, son coéquipier. Manu nous parle de Nico, de ses qualités.
Moi, Nico, c'est un des plus grands joueurs avec qui j'ai joué. Quoi. En termes de qualité intrinsèque, il avait une rapidité gestuelle.
Intrinsèque, oui.
Oui, c'est ça.
Sans transition. L'Euro, cette année, rime avec musique. Alors là, on entend en ce moment l'hymne officiel de l'Euro. Martin Garrix, Bono, U2, c'est pas mal quand même.
C'est
sympa. On a beaucoup parlé de la chanson de Youssoupha, qui parle des Bleus.
Écris mon nom en bleu.
Et là, une nouveauté avec une belle surprise en prime dans cette nouveauté. Le rappeur, producteur, parolier Vald. C'est un rappeur très connu dans le monde du rap. Fait beaucoup de scènes, beaucoup de festivals. Il cartonne. Il a du succès. Vald.
Oui, on imagine.
Quelqu'un qui monte vraiment et qui est très apprécié, qui a de très bonnes critiques. Vald a publié une chanson sur le foot, là, à l'occasion de l'Euro.
Sur la blague de Vald.
Attention, parce que ça va être énorme. Ce que je vais vous révéler, c'est énorme. Le clip s'appelle Footballeur. D'accord ? Footballeur, c'est du rap, c'est pas mal. Il sort ça pour l'Euro, on écoute.
J'ai toujours rêvé d'être footballeur.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut être footballeur, et dans le clip on le voit évoluer, il devient footballeur, il réussit, il a des difficultés, il parle du métier de footballeur. Le clip est sympa, surprise à la fin, ça se passe bien pour Vald qui joue au foot et il marque des buts. Et au moment d'un but, écoutez ce qu'on entend au moment du but.
Ah. Je suis plus refait que certains footballeurs.
Le débordement de côté gauche de Suico, le centre est parfait au second poteau.
Non.
La frappe de Vald. Oh, quelle frappe de Vald. Pleine lucarne, quel but.
C'est notre Jeannot Séguier qui était sollicité par un rappeur à la mode, Vald.
Moi, je m'attendais à le voir. Il y a la pub pour Cassoulet qui va sortir.
Mais non, mais il a dû prendre un chèque énorme, Jeannot, là. C'est un truc de fou. Attendez, c'est pas fini. La fin du clip, parce qu'à la fin, Vald prend un carton rouge.
C'est
ça, Vald. Il prend le rouge.
En plus,
on écoute.
C'est le même agent que certains footballeurs.
Il prend le rouge.
Vald, non, Vald, pas ça. pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Qu'est-ce que c'est bien joué. Il cite des grands auteurs.
C'est exceptionnel.
Bravo Jeannot.
Allez voir le clip sur rmcsport.fr. Ouais.
Et dis-moi,
mais c'est on voit Jeannot.
Adrien.
Oui,
le Gret, il a trouvé ça comment, le
Gret? Il faut le solliciter.
Il n'est pas au courant.
Il n'est pas au courant. Oui, c'est
son service commercial.
Jeannot, nouvelle star du rap.
Bravo Jeannot.
Jeannot est dans le clip.
Tu n'as
pas vu?
Non, il est à la buvette.
Il prend toute la
place. Il prend toute la place.
On embrasse Jeannot.
Bravo Jeannot, phénomène.
Comment tu as pu dire, Adrien? C'était pour ménager le suspense que tu as dit. Il y a une des voix du foot sur RMC. Jeannot, c'est la voix du foot.
C'est pour le teasing, c'est la voix du foot.
C'est vrai que
tu savais qu'on aurait trouvé
la peur à passer
dans la voix du foot. Voilà. Jeannot qui sera là, évidemment, fidèle au poste,
bien
au commentaire des matchs des Bleus pendant l'Euro.
On a hâte.
Lui qui a commenté 2582 matchs.
Il est chanté,
on va voir.
Là, il a 2725.
Je sais pas, mais il les compte, les matchs. Il pourra nous le dire.
Il compte double, des fois, les matchs.
Ah oui, il y a des matchs compliqués. Mais il les fait vivre avec la même passion.
Parce que je suis sûr que le chiffre sera rond si on va en finale de l'euro.
Tu vois, par hasard.
Écoute, là, ça sera le 3000e.
Ah bah c'est le 1500e.
Alors
bah voilà.
Oh, 1500e alors que il y a 100 matchs de ça, c'était le 1000e.
On salue Jeannot. Oui, mais tu sais, il se passe toujours des trucs sur les finales de grandes compètes.
C'est vrai.
En 2018, bah t'étais là aussi.
Oui.
On a fêté la dernière de Jean-Michel Larquet, voilà, c'était hyper émouvant.
Et en plus, rigole pas, mais je crois que Jeannot avait fêté sa 1000e
comme disque rayé, arrêté, c'est pas possible.
Mais excuse-moi Jean-Michel, t'as joué avec notre émotion avec Jérôme ce soir-là, on avait les larmes aux yeux.
Mais franchement, c'est dur.
Et après, t'es revenu.
Ça devient insupportable. Je vais prendre ma retraite.
Ah non, pas une deuxième fois.
Non. Ouais, mais là, je peux dire qu'on pleurera pas cette fois.
Et puis là, compte pas sur Roland pour aller te rechercher.
Vous étiez à la rue, vous m'avez demandé de revenir. Vous étiez à la rue, bande de clowns.
N'importe quoi, il fallait remplacer Roland qui est parti à Caen.
Mais
pour une bien belle aventure.
Tu sais que dans les.
Tu es revenu depuis, hein.
Et tu sais que dans les négos de contrat, franchement, entre Jean-Michel et Roland,
c'est le plus fort.
Ah, mais c'est les plus forts.
Les deux, c'est les plus forts.
Roland me disait que si l'équipe de France était championne d'Europe, c'était plus deux de contrat encore.
Sachant que le contrat en 2030.
Ouais, déjà il est en 2028. Donc là il ira jusqu'en 2030.
Ah bah c'est les plus forts si tu veux. Dans une seconde, le multiplex Ligue 1. Lyon.
Ça fait du bien, tiens.
Bravo les vieux.
Merci Adrien. Bravo. Lyon est-il capable de se réinventer?
Bravo Adrien.
Sans moyens financiers, 32-16 pour débattre des infos mercato à Lyon, à Saint-Etienne, à Bordeaux, à Nantes ou encore à Caen. C'est dans une seconde, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Rotten Régal.